Vous allez entendre Paroles d'archives, une série radiophonique où des jeunes vous parlent d'histoire. Bonjour, je suis Sabine Lemler, je suis metteur en scène de théâtre et je conçois des projets artistiques et pédagogiques. M'adresser aux jeunes, les rendre acteurs de leur apprentissage est une de mes priorités. Avec les artistes Violaine Marie Membolt et Mathieu Gouste, nous avons créé des spectacles historiques et mémoriels. Paroles d'archives, une histoire alsacienne et périgourdine qui raconte l'évacuation des Alsaciens en 1939 et France-Algérie Correspondance qui parle des liens entre la France et l'Algérie de 1830 à nos jours. C'est dans les collèges et les lycées que nous allons les jouer. Chaque représentation est suivie d'un bord-plateau pour échanger avec les élèves afin qu'ils puissent s'exprimer sur ce qu'ils ont vu et qu'ils ne repartent pas avec des questions sans réponse. Dans un désir de prolonger cet espace de parole, nous proposons à des classes l'élaboration d'un épisode pour la série que vous allez découvrir dans un instant. L'idée, c'est que les jeunes s'approprient l'histoire, la grande et la leur propre, qu'ils aillent à la découverte d'archives du passé et que cela leur donne envie d'interroger leurs archives familiales. J'espère pouvoir poursuivre ce projet sur plusieurs années et enrichir cette série radiophonique de multiples voix. Alors bonne écoute et à bientôt!
Paroles d'archives, une série radiophonique où des jeunes vous parlent d'événements historiques du XXe siècle.
Cet épisode a été écrit par les élèves de la classe de terminale générale 4 du lycée Marie Curie de Strasbourg.
Alsace-Lorraine, histoire d'une évacuation bien anticipée.
1870, la guerre contre la Prusse est perdue.
Le 1er mars 1871, les députés réunis à Bordeaux ratifient le traité de paix qui sera signé le 10 mai.
Par 546 voix contre 130, l'Alsace et la Moselle sont cédées à l'Empire allemand malgré la protestation de 27 députés alsaciens et lorrains.
Au moment de quitter l'Assemblée, le député Grosjean déclare
« Nous vous suivrons de nos voeux et nous attendrons avec une confiance entière dans l'avenir que la France régénérée reprenne le cours de sa grande destinée. » Vos frères d'Alsace et de Lorraine, séparés en ce moment de la famille commune, conserveront à la France, absente de leur foyer, une affection filiale jusqu'au jour où elle viendra y reprendre sa place.
N'oublions pas que la Marseillaise avait été chantée pour la première fois en 1792 sur l'actuelle place Broglie à Strasbourg.
C'est alors que commencent les nombreux changements de nationalité de l'Alsace.
Les Alsaciens qui avaient été français pendant des siècles se retrouvent donc sous domination allemande.
Ces changements de nationalité forment ce que l'on appelle des politiques d'assimilation. Une population abandonne sa culture pour être assimilée à une autre.
L'Alsace et la Lorraine sont germanisées.
Et ça ne plaît pas à tout le monde. Certains continuent à revendiquer leur identité française.
Ce qui conduit à des tensions constantes avec les autorités allemandes.
1918, fin de la Première Guerre mondiale. Défaite allemande. L'Alsace et une partie de la Lorraine sont réintégrées à la France.
Mais ce retour aux sources est de courte durée.
1940, pendant la Seconde Guerre mondiale, l'Allemagne nazie envahit la France. L'Alsace et la Lorraine se retrouvent à nouveau sous l'occupation et la répression allemande.
La place Broglie devient Adolf Hitler Platz. La statue de la Marseillaise d'Alfred Marlsow est aussitôt détruite par les nazis. Elle ne sera reconstruite qu'en 1980.
1945, fin de la Seconde Guerre mondiale. L'Alsace et la Lorraine redeviennent françaises et le sont toujours.
Mais revenons un peu en arrière.
Fin de la Première Guerre mondiale, vers 1918 en France, se pose la question de la fortification des frontières.
L'état-major français considère l'Allemagne comme une menace et se décide donc de renforcer les frontières proches du Rhin en construisant la ligne Maginot qui porte le nom du ministre de la guerre de l'époque, André Maginot.
Le projet de la ligne débute en 1928. Son objectif, protéger le territoire français d'une possible attaque tout en bloquant les Allemands pendant la mobilisation de l'armée française.
Dès 1936, les tensions avec l'Allemagne grandissent notamment avec la remilitarisation de la Rhénanie, région frontalière, le 7 mars.
Dans ce contexte préoccupant, les autorités prévoient des mesures dont une évacuation dès 1937.
Il faut à tout prix éviter que les populations civiles vivant entre la frontière et la ligne Maginot se retrouvent prises entre deux feux.
Le maire de Strasbourg, Charles Frey, est prévenu secrètement par le préfet. La population de la ville sera transportée et rassemblée dans des centres de recueil au pied des Vosges, puis évacuée à Périgueux.
Un plan particulier est ensuite établi en 1938, mais cela reste secret. D'autres mesures complémentaires pour la défense sont prises. Le plan d'évacuation continue d'évoluer jusqu'en 1939.
Vendredi 1er septembre 1939, l'Allemagne et l'URSS envahissent la Pologne. La mobilisation générale est décrétée.
Le tocsin sonne dans les campagnes, les sirènes retentissent dans les villes.
Les lettres cachetées annonçant l'ordre d'évacuation sont ouvertes.
La population doit faire ses bagages.
Tout va très vite. Les silences sont longs depuis des
semaines. Tout va très vite. Les silences sont longs depuis des semaines. Le brouillard habite nos vies et notre quotidien. Mon père me dit qu'on doit partir, mais on ne sait pas où aller. Il me dit de prendre le strict minimum. Les policiers nous dirigent le long des itinéraires en couleur vers la porte de Saverne, d'autres à la porte nationale, celle de Schirmeck, et c'est le début d'un long voyage. Autour de nous, de longues files, chacun se déplace comme il peut, à pied, les bagages entassés dans une poussette ou un landau, à bicyclette, en voiture à bras. Ensuite, il faut laisser ses moyens de transport et partir vers les centres d'accueil. Nous sommes 120 000, me dit mon père.
Les militaires sont mobilisés, loin de leur famille, les lettres sont leur seul moyen de communication. Aux archives, nous avons pu en lire quelques-unes.
Saverne, le 2 septembre 1939. Ma chère Yvonne, après une nuit de veille, je m'empresse de te donner signe de vie. La mobilisation est donc ordonnée et l'évacuation a commencé. Comme je suis content de vous savoir à Waldensbach, j'en rends grâce au ciel. Les chances de maintien de la paix sont donc devenues assez minimes. Si la guerre éclatait, quittez Waldensbach et rejoignez les Strasbourgeois à l'intérieur. Ton mari, lieutenant Werner.
Le 3 septembre 1939, l'Angleterre et la France déclarent la guerre à l'Allemagne. C'est le début de la Seconde Guerre mondiale.
Les nouvelles circulent, mais moins vite qu'aujourd'hui.
3 septembre 1939. Ma chère petite femme, dimanche aujourd'hui, et quel dimanche ? Sombre dimanche. Je viens d'apprendre, en ville, je ne sais pas ma foi s'il s'agit d'un retard ou d'une vérité, que l'Angleterre se considérait en état de guerre avec l'Allemagne et que la France suivrait. Jusqu'à ce que cette lettre t'arrive, tu seras probablement fixé. Nous voilà embarqués dans la grande aventure que nous avons toujours considérée comme impossible. Tous nos biens matériels sont probablement perdus. Tâche de vous procurer des masques à gaz dès que possible. Et surtout, reste forte. Garde confiance en l'avenir. Et si, la tourmente passée, je ne suis plus là, reviens malgré tout en Alsace et cramponne-toi à la ville de Strasbourg pour qu'elle t'aide financièrement. Ton mari qui pense à toi.
Le 3 septembre 1939, Strasbourg est une ville complètement vide, presque silencieuse.
Les villages des alentours sont également déserts.
Il ne reste sur place que les agents de police, les pompiers, les commissions de sauvegarde, les élus comme le maire, le corps administratif, des pelotons d'intervention de la garde républicaine, la SNCF et des équipes médicales.
267 ouvriers municipaux, le maire et 6 élus, 14 notables, 98 pompiers, des agents de police, des agents de la SNCF et une équipe médicale.
Des mesures strictes sont mises en place, telles que le couvre-feu et le camouflage des lumières des voitures.
La vie quotidienne est difficile, mais plusieurs efforts sont déployés pour maintenir un semblant de normalité. Certains services essentiels, tels que les commerces alimentaires et les pharmacies, restent ouverts pour assurer la subsistance des habitants maintenus sur place.
Cependant, les activités de divertissement, comme les cinémas et les spectacles, sont suspendues.
Même si Strasbourg est déserté, un système de surveillance et de ronde est mis en place pour maintenir en sécurité les biens et habitations des Strasbourgeois, en raison des pillages.
Pour rassurer les Strasbourgeois, Camille Chautan, vice-présidente du Conseil, prononce une allocution radiodiffusée.
Je vous fais la promesse que sur ces foyers, notre armée veillera avec une attention et une fermeté de tous les instants.
Pour circuler dans la ville, il faut obligatoirement être en possession d'une autorisation permanente ou temporaire délivrée par l'autorité militaire.
Les habitants s'inquiètent du sort de leur logement.
L'hiver 1939 est très froid. Lettre d'Yvonne à son mari, le lieutenant Werner.
Papa est très ennuyé au sujet de l'eau des radiateurs de la maison. Pendant le gel, toute la maison pourrait être inondée.
Le problème posé par la présence de l'eau dans le chauffage central est évidemment très grave.
Réponse de son mari, le lieutenant Werner.
Il ne s'agit pas seulement de fermer l'adduction de l'eau, ce qui serait facile et qui paraît d'ailleurs fait. Il faut aussi vider toute l'eau contenue dans les tuyaux et les radiateurs. Je n'ai ni le temps ni la possibilité matérielle de me charger de ce travail. Pour aller à Strasbourg, il faut cependant obtenir un laissez-passer, qui est très difficile à obtenir. Sinon, impossible d'entrer en ville sans ce papier. On est d'ailleurs arrêté à tous les coins de rue par les gardes mobiles qui patrouillent et surveillent les biens des évacués pour que rien ne soit volé.
Quelques-uns l'obtiennent, le lieutenant Werner en fait partie.
J'ai été hier et aujourd'hui pour une minute à Strasbourg dans notre logement. C'était probablement pour la dernière fois. J'en ai pleuré comme un enfant.
Strasbourg est très contrôlée. Des affiches d'avis sont placardées sur tous les murs informant sur les sanctions du pillage.
Des travaux forcés et la peine de mort sont envisagés.
Malgré les mesures, cela n'empêche pas les pillages dans les zones évacuées. Les militaires sont également auteurs de ces pillages. Ils sont passés sous silence par l'autorité militaire, mais n'en sont pas moins sanctionnés.
Avec l'arrivée de l'hiver, le cas s'aggrave, le calme et le froid engendrent de l'inaction, de l'ennui et de l'indiscipline. La ville est silencieuse, les herbes folles poussent entre les pavés, les rails du tramway rouillent, seuls les chats errent dans les rues.
Les animaux des eaux de Strasbourg sont lâchés dans la nature, mais d'autres sont cruellement abattus par la police.
Des singes se réfugient dans les immeubles du quartier de l'Orangerie. Malheureusement, ils ne survivront pas au froid.
Waldersbar, le 11 septembre 1939.
Aujourd'hui, une grande partie des réfugiés a dû quitter Waldersbar. Ils ont été cherchés dans de grands autocars et ont été conduits à Saint-Blaise. Les jeunes filles qui logent chez nous peuvent encore rester 2 ou 3 jours. Pour le moment, on distribue toujours du ravitaillement, du lait, du pâté, du salami, de l'huile, de la graisse, de l'épicerie. Et tous les jours, 400 grammes de pain par personne. Aujourd'hui, à midi, nous avions du pâté, des pommes de terre rôties, de la salade. Papa vient de causer à un monsieur qui connaît la contrée du Périgueux. Il paraît qu'on y rencontre pas mal de puces et de punaises et que la population est assez paresseuse, faite d'ailleurs principalement de cultivateurs. Mon ami, je te quitte et t'embrasse bien tendrement. Avec toute mon affection, ta chère femme, Yvonne.
À partir de 1939, c'est plus de 600 000 Alsaciens, Lorrains et Mosellans qui vont être déplacés vers des départements du sud-ouest de la France.
80 000 Alsaciens vers la Dordogne.
Un moment de l'histoire qui a créé des liens entre le nord-est et le sud-ouest de la France, qui perdurent encore aujourd'hui.
Un moment de l'histoire que vous pourrez découvrir plus précisément dans les prochains épisodes de cette série radiophonique.
Bravo aux élèves Luna, Margot, Roselyne, Paul, Grégoire, Tristan, Johan, Zinedine, Georgie, Soliane, Victor, Gabin, Raphaël, Nayeli, Félix, Ibrahim, Luna, Clémence, Pauline, Gaïané, Thibaut, Ivailo, Senjay, Guven, El Hussein, Garance, Pierrot, Sausen, Matteo, Lucie, Alban, Taimour, Laetitia et Félicien. Merci à leurs professeurs, Marianne Guillemin, Catherine Keller et David Wimmer-Nejman. Merci aux proviseurs et proviseurs adjointes, M. Youssef Slamani et Mme Titiana Silvestri. Un grand merci à Marie Collin des Archives départementales d'Alsace pour son aide précieuse. Enregistrement, Violaine Marine Embold et Mathieu Goust. Montage et mixage, Mathieu Goust. Sur une idée de Sabine Lemler, conçue par la compagnie VIA de Strasbourg. Création musicale, les élèves de terminale de la section musique du lycée Marie Curie de Strasbourg et leur professeur Marie-Annick Guillemin. Merci à nos partenaires, la Région Grand Est, l'Organisme National des Combattants et Victimes de Guerre, les Archives Départementales d'Alsace, la Collectivité Européenne d'Alsace, le Pass Culture et le Crédit Mutuel.